en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
J'aime me battre.
Ouais, c'est pas faux.
Ou tu sors ou je te sors.
Tu peux te brosser, Martin.
Ding, ding.
Quadricolore.
Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen.
Josiane, vous êtes un maillon faible.
Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Salut à tous.
Salut.
Et bienvenue dans Bebop 2000.
Merci.
Et ce mois-ci, on est ensemble pour parler de l'année
2005.
Qui suivent, c'est parfait. Et cette semaine, on parle de
société.
Exactement. À mes côtés pour cette émission, ils sont chauds comme des petites Citroën Saxo en feu. Je parle bien évidemment de Kevin.
Bonjour.
Comment ça va, Kevin?
Ça va très bien. Là, l'enchaînement des chroniques ce mois-ci.
Ah oui.
J'avoue que ça va pas être facile.
Next Crazy Frog, Brice de Nice. Et là, les émeutes. On est voilà. On est dans une logique comique.
De répétition.
On est sur des thèmes faciles, ouais. Effectivement. Putain. Anto, comment ça va?
Bah écoute, ça va. C'est bien de se replonger aussi sur des faits qui ont marqué cette société.
Tout à fait.
Parce que ça serait pas le principe de Bebop.
Si, c'est bien de remettre l'église au milieu du village.
Exactement.
Si tu me permets.
Bien sûr.
Ça
bien
va.
Bien sûr.
Pas là que pour la gaudréole, on est des journalistes avant tout. Et Clémy, comment ça va?
Bah ça va et toi?
Eh bah écoute, pleine forme pour cette dernière thématique de l'année 2005.
Absolument.
Avant de commencer, comme toutes les semaines, on vous invite à laisser 5 étoiles sur vos applis préférées de podcast.
Voilà, c'est ça.
Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire élogieux pour entrer dans le cercle très fermé de nos auditeurs préférés. Car oui, nous aussi, on vous note et on vous classe.
C'est vrai, c'est vrai. Surtout ceux qu'on aime le moins, faut dire. Mais
une étoile celui-là.
Mais il y en a certains qu'on aime bien. Voilà.
Allez, sans plus tarder, c'est l'heure de la partie société. Bon, on a bien rigolé sur cette année 2005, hein, gna 5 étoiles, gna en Amérique tout est plus grand, les grenouilles avec le sgay galère.
Ouais, c'est vrai. C'était
mais,
ça.
Mais aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est pas hyper drôle, hein, globalement, on va vous le faire en toute franchise, hein. Il restait ce sujet et le sujet musique. Personne d'autre qu'Anthony ne pouvait traiter l'album de Crazy Frog, qui était en fait une véritable ode au bruit de bouche. Voilà.
Ah là là, il est là.
Il est là.
Le ton est donné, il en manquait un petit peu sur cette année 2005, je trouvais.
Il va faire un remix de Crazy Frog.
On avait de la chance que ce soit à répétition, pas à répétition, sinon j'ai une chanson là.
on a le quota. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a secoué la France en 2005, les émeutes en banlieue. Ouais, j'ai déjà fait la canicule en 2003, je suis experte de l'actu chaude. Ce sera littéralement la seule vanne de cette chronique. Les émeutes en banlieue, vous vous en souvenez peut-être, elles commencent fin octobre 2005, mais comme souvent, il n'y a pas de fumée sans feu et il n'y a pas de feu sans contexte social ou politique tendu. Le contexte, justement, on est début 2005, le gouvernement Raffarin veut durcir la lutte contre le trafic de drogue dans les banlieues avec une présence policière renforcée.
Alors que Raffarin est un rocker,
voilà. À la base, Johnny.
Un rocker bilingue.
Voilà. Donc la drogue, ça devrait être son truc à lui, mais non.
La drogue, pour lui, c'était le café à l'époque.
Exactement, le gringo. Début mars 2005 déjà, dans le quartier de la Goutte d'Or, des premières émeutes éclatent suite à l'hospitalisation dans un état grave de Ballet, un jeune de 19 ans soupçonné de vendre du crack, atteint d'une balle à côté du cœur pendant une intervention policière.
En bref, le policier qui a grièvement blessé par balle un dealer de crack présumé lundi soir à la Goutte d'Or a été mis en examen pour blessure involontaire. Rappelons que cette arrestation musclée avait provoqué de vifs affrontements. Et bien, l'un des 10 jeunes interpellés après ces incidents a été condamné en comparution immédiate à 5 mois de prison ferme.
Ah oui, balle dans le cœur, c'est musclé.
Ouais,
c'est plus musclé.
Ah bah oui.
Comme fruité.
allez, on continue.
Je sais pas où j'allais, je sais pas où ma phrase allait. Bon, merci de m'avoir sauvé, Clémy.
Je vous en prie.
Donc, suite à cette intervention et à ce dealer de drogue présumé, attention, le quartier s'embrase. 6 policiers sont blessés, des voitures et des vitrines sont vandalisées. Quelques semaines plus tard, à Aubervilliers, le 1er avril, des policiers sont pris pour cible après la mort de Karim, 17 ans, dans un accident de moto alors qu'il était poursuivi par la BAC. Et l'IGS, la police des polices, confirme dans son rapport que la police n'a pas provoqué l'accident, mais que le protocole en matière de course-poursuite n'a pas été respecté. La mort de Karim entraîne à son tour plusieurs jours de violence à Aubervilliers.
C'est qu'on est sur de la percussion de moto.
Exactement, sans prévenir, quoi.
La classique.
On est fin juin 2005 et un nouveau drame vient troubler le quotidien de la cité des 4000 à La Courneuve.
Hier, au pied de l'une des barres HLM de la Courneuve, un enfant de 11 ans a été tué d'une balle, frappant presque en plein cœur. La police recherche 4 suspects. Hervé Guéquer, Claudine Gilbert, Loïc Ouex.
Au pied de la cité des 4000 à la Courneuve, l'effervescence après la mort du petit Sidi Ahmed, 11 ans. Et Nicolas Sarkozy, un ministre de l'Intérieur, sous les feux des projecteurs, une fois de plus.
Je vous dis une chose très simple. Ceux qui ne respecteront pas la loi, on les tapera dur. Ceux qui veulent s'en sortir, on les aidera fort.
Taper pour de vrai ?
Taper, c'est une façon de parler.
Hier, le petit Sidi Ahmed Amash a été tué par une balle perdue en bas de son immeuble, se retrouvant malgré lui au milieu d'une fusillade. Le maire de la Courneuve déplore l'insécurité et le manque de policiers dans les quartiers difficiles.
Et je regrette que, de ce point de vue-là, il n'y ait pas une action plus résolue des services de police que j'ai alerté à de multiples reprises, notamment sur ce quartier de Balzac, dont on sait que c'est quelque part un peu une base arrière du trafic.
Oui, je me rappelle de ce truc. C'est dans un affrontement, c'est ça, ouais.
Ouais, c'est ça. Ouais. Un affrontement entre deux gangs rivaux, entre guillemets. Le gamin était en train de laver la voiture de son père et il prend une balle perdue.
Okay.
Le drame endeuille donc une cité où le climat est déjà très tendu. Le gouvernement Raffarin a sauté quelques jours plus tôt et c'est Nicolas Sarkozy qu'on vient d'entendre, fraîchement nommé ministre de l'Intérieur par Dominique de Villepin, qui rend visite aux habitants pour les rassurer.
Nicolas Sarkozy a assuré que les auteurs présumés du meurtre seraient retrouvés très vite. Il a également réitéré un discours rodé, celui de la fermeté à tout prix.
Les habitants de la cité des 4000 ont, comme les autres habitants de France, le droit à la sécurité. On va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des 4000.
Ouais, au propre ça, comme au figuré. Ouais, oui. Ça, j'avais zappé déjà.
Là, ah ouais, ça, je m'en souviens. Ça. Nicolas Superstar, là. Quand il est à l'intérieur, là, c'est.
Là, il devait être Premier ministre, mais c'est Villepin qui lui a grillé la politesse parce que Chirac voulait pas à côté de toi.
Après, l'intérieur, c'est aussi une.
Oui, l'intérieur,
belle visibilité.
C'est numéro 2 du gouvernement.
C'est toujours, toujours par rapport à la période Balladur où il peut pas le blairer et il va
ouais,
pas.
Ouais, oui, oui.
Mais là, ouais, putain, Sarkozy à l'intérieur, c'était là, il y a 2 ans de. Enfin, il le tient jusqu'à la présidentielle, l'intérieur.
Je crois qu'il démissionne juste avant pour devenir président de l'UMP, pour être candidat à la suite.
Surtout que dans le contexte 2002, tu as eu Le Pen au deuxième tour. Donc là, le côté sécurité, déjà, tu es à fond dedans.
On avait parlé pour la campagne Le Pen-Chirac. C'est vrai qu'en 2002, le thème, c'était l'insécurité. Et là, on est juste 3 ans plus tard.
On continue dans ça.
Bah là, oui.
Et Nicolas Sarkozy, donc on l'a entendu, va jouer la carte de la provoque à fond. Ça va d'ailleurs lui être reproché jusque dans son propre camp. Quelques jours après avoir dit qu'il voulait nettoyer la cité, au propre comme au figuré, hein. Il donne un peu plus d'infos sur les consignes de lavage.
Et le ministre de l'Intérieur persiste et signe le terme nettoyer au perchet, un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela.
Ouais. Voilà. Ça, c'était marquant ce moment-là.
En boucle à la télé. Ouais.
Oui.
Ah, puis même, ouais, pendant des années, il y a toujours maintenant ce côté où l'expression Karcher, maintenant,
C'est souvent réexpliqué là-dessus, sur comment, pourquoi il a dit ça, etc. De se justifier.
Ah, il bossait chez Éléphant Bleu à l'époque.
Ouais, et puis là, Karcher arrive sur le marché. Il est obligé de prendre la part.
Lui, à la base, c'était lavage au rouleau. Lui, il était spécialisé lavage au rouleau.
Et puis Karcher arrive fort. Une puissance.
Un appel d'offres.
Sur du ministère sponsorisé.
Ah, t'es obligé de t'adapter après.
Influenceur quelque part.
Il monte ses muscles et ses montres, là, il monte les Karchers.
Hot husband.
Hot toujours, husband, on rappelle. Wet husband.
Quelques mois plus tard, nous sommes le 24 octobre, en visite à Argenteuil où a eu lieu un affrontement mortel entre deux gangs au printemps, Nicolas Sarkozy fait une nouvelle déclaration qui va être vécue comme un affront par les jeunes de banlieue.
Une valise en Kevlar en guise de bouclier pour protéger le ministre de l'Intérieur des jets de projectiles. Une énième visite en banlieue et un discours qui ne change pas d'un iota.
Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Ah oui. C'est quand il interpelle une dame.
Oui,
c'est ça.
Quand il est en chemise à moitié ouverte, là, il sort de dîner, j'ai l'impression, il dit ça.
Alors cette période, en plus c'est vraiment ce qu'il aime Sarkozy, c'est que là
c'est le prime Sarkozy.
Il peut avoir les punchlines, parce que bon, ça reste un très bon orateur le mec quand même.
Ouais.
Et du terrain, quoi, comme pour Human Bomb à l'époque en 93.
Ouais, il se sert de.
Ouais. Ouais, c'est un américain.
Mouille le maillot, Nico. Attention, ça, on peut pas lui. Il va au contact.
Bon, du coup, ces propos vont faire monter la tension. La tension ne monte pas qu'en région parisienne, d'ailleurs. Déjà, du 16 au 19 octobre, le quartier du Mas du Taureau, à Vaux-en-Velin, qui a déjà fait parler de lui dans les années 90, près de Lyon, s'embrase après la blessure d'un jeune ayant tenté d'échapper à la BAC. Et le 27 octobre, à La Duchère, à Lyon, cette fois-ci. Des voitures sont incendiées en réaction à la visite du ministre des Affaires sociales.
Il y a 8 jours,
Des hommes de la brigade anticriminalité ont provoqué un accident avec des jeunes du quartier qui roulaient sur un scooter volé. Pour les copains des victimes, c'est la goutte qui a fait déborder le vase.
À quel moment ils dépassaient les limites, ces dernières semaines par exemple?
À quel moment?
Ouais.
Le moment où ils ont renversé le jeune. Quand ils ont renversé notre pote à nous.
Scooter, en plus de ça, il avait la jambe pétée, tous aidés sur lui, lui mettaient des coups, les menottes par terre.
Ils disaient, faut pas.
La dernière fois aussi à mon pote, ils m'ont mis une frappe en scooter alors qu'il était en règle. Eux aussi nous provoquent. La dernière fois, quand ils sont venus, quand ça a chauffé aussi, ça insultait, ils insultaient, ils nous disaient venez. Bah voilà, bah maintenant on est là. Ils ont cherché à ce qu'on vienne, maintenant on est là. Eux aussi, ils aiment bien ça, hein, les rapports de force. Hein.
Eux, ce sont les hommes de la BAC, la brigade anticriminalité, qui accueillent notre deuxième équipe cette semaine-là. Créée en 91, composée de jeunes volontaires issus d'autres services de police, les BAC sont devenus le symbole de la politique sécuritaire de Nicolas Sarkozy. Quand il a remis en cause la police de proximité en 2003, en estimant que les policiers n'étaient pas là pour dialoguer avec la population, le ministre de l'Intérieur a beaucoup misé sur ces jeunes volontaires motivés par la répression et prêts à en découdre.
C'est sûr qu'on s'expose, mais bon, on y prend aussi du plaisir. Je veux dire, c'est quand même ça, quoi.
C'est jamais une diffamité,
on est là pour ça, hein.
Pour aller plus vite.
En ce samedi soir, les hommes qui prennent leur service de nuit ignorent encore ce qui se trame à Vaux-en-Velin. Tous, en revanche, sont au courant de l'affaire du scooter, celle qui est à l'origine des émeutes.
Le cerveau est dans la boîte à gants.
Ouais. Ah, oui, la bonne petite blague. Ouais. Tu me nettoies le son Karcher, Tania.
Alors, ça faisait peur, hein, ça.
L'extrait était hyper intéressant, mais malheureusement, la qualité est vraiment dégueu. Je m'en excuse.
Mais il y a une censure d'État, c'est obligé, ça. C'est manipulé, ça.
Ça cherche pas, c'est Nicolas.
C'est politique.
C'est Sarkozy qui
appuie sur le bouton.
Il allait gratter la banque.
Ouais, on l'a récupéré, on est là.
Mais l'élément déclencheur des émeutes dans les banlieues, il a lieu le 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois. Une bande de copains rentre du foot et sur leur chemin, ils longent un chantier, tout bêtement. Derrière sa vitrine, il y a un commerçant dans la rue en face qui les aperçoit et qui appelle la police en pensant que la bande de jeunes veut cambrioler le chantier. La BAC arrive sur les lieux immédiatement et tente d'interpeller la bande d'ados qui se disperse. Bouna Traoré, 15 ans, Ziad Bena, 17 ans et Muitin Altoun, 17 ans aussi, vont essayer de se cacher dans un transformateur électrique. Muitin s'en sortira gravement brûlé. Bouna et Ziad vont mourir électrocutés. Les autres jeunes témoigneront. S'ils se sont enfuis en entendant les voitures de police, c'est pas du tout parce qu'ils avaient l'intention de commettre un cambriolage. C'est parce qu'ils sont partis jouer au foot sans leurs papiers et qu'ils veulent pas aller au commissariat prouver leur identité, qu'ils ont peur de la réaction de leurs parents s'ils finissent au poste, même s'ils ont rien fait. Ils ont l'habitude de se faire contrôler et ils savent comment ça se passe. Mais du côté de la police et du gouvernement, la version est différente.
24 heures après la mort de deux adolescents à Clichy-sous-Bois, les circonstances du drame restent toujours confuses. Les deux jeunes sont morts et électrocutés. Étaient-ils poursuivis par la police? Des témoins l'affirment, mais les policiers démentent formellement. En tout cas, la ville a été le théâtre de violentes émeutes une bonne partie de la nuit. Édouard Acosta et Samuel Guibou.
Plusieurs voitures incendiées, des pompiers débordés, des abribus saccagés. Voici ce que l'on pouvait voir cette nuit aux abords de la mairie de Clichy-sous-Bois. Un centre-ville défiguré par des scènes de violences urbaines. Un déchaînement consécutif à la mort de deux adolescents, électrocutés par un transformateur EDF, près duquel ils s'étaient cachés quelques heures auparavant. Les policiers savaient-ils que les victimes étaient cachées derrière ces murs? Non, si l'on en croit le ministre de l'Intérieur, qui n'a pas tardé à réagir lors d'un déplacement aujourd'hui en Lorraine.
Il ne semble pas qu'ils aient été poursuivis à ce moment précis par la police. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de policiers juste derrière eux, même si c'était lié au contrôle de police précédent.
Soupçonnés par certains jeunes de ne pas être intervenus à temps pour porter secours à leurs proches, les policiers de Livry-Gargan se défendent ce soir par la voix d'un syndicaliste.
Les fonctionnaires disent qu'ils ont perdu de vue certains jeunes sur un terrain vague, qui est vraisemblablement le site de l'EDF, où se trouve le transformateur. Et donc à aucun moment, ils se doutent que les jeunes sont réfugiés dans ce site EDF.
Ouais. C'était marquant, là,
ce décès.
Oui.
Bah ouais, parce que déjà, ils avaient mon âge.
Ouais.
Donc, et puis la mort est méga violente. Quoi, donc, d'habitude, c'est vrai que c'est souvent les bavures... comme on l'a entendu tout à l'heure, balle perdue ou accident, ouais. Accident de scooter.
Là, il court simplement. Après, le pourquoi du comment, il y a deux versions qui s'opposent.
Ouais.
Mais il court simplement et il se réfugie. Quoi. Enfin,
ouais, puis là, t'as électrocution.
C'est vrai que le transport, en plus, ouais, t'as le triangle jaune, si tu rentres, c'est danger de mort.
Ouais. Ouais, alors, par contre, je me suis.
C'était jamais... trop facile d'accès, finalement.
Mais j'ai jamais su comment c'était dans un transport. En fait, j'ai jamais trop
Parce que, oui, de... effectivement, tu dis si tu rentres, tu es électrocuté automatiquement. Je sais, ou alors il faut toucher un truc.
Je pense qu'il y a un générateur dans le truc.
Ouais, je pense que c'est un bâtiment. Enfin, c'est une grande pièce, je pense, qui est sous extrêmement haute tension.
Mais comment tu rentres dans l'absolu ? Après, on va pas refaire toute l'histoire, mais je veux dire, comment tu arrives aussi facilement à rentrer dans un transfo qui doit être sécurisé quand même un minimum, tu vois ? Il y a aussi ce truc.
Mais ouais, vraiment. Avant même les émeutes dont on va parler là, déjà avec les. L'affaire avec les conditions de la mort, c'était pour quand t'es ado, c'est vrai que c'est.
Puis là, tu sens aussi que ça tangue un petit peu. Il y a deux versions qui s'opposent et tu te dis voilà, ça prend le parti des flics quelque part pour protéger un petit peu l'histoire et pas que l'opinion publique, à mon avis, aille dans l'autre sens quoi.
Bah justement, Muhittine, juste le jeune rescapé, soutient qu'ils étaient poursuivis, mais Dominique de Villepin conforte la version de Nicolas Sarkozy qu'on vient d'entendre en disant « Selon les indications qui m'ont été données, il s'agit de cambrioleurs qui étaient à l'œuvre. » Donc selon eux, la police a agi dans son bon droit, les ados étaient des délinquants et ils étaient présumés coupables. Les émeutes commencent officiellement du coup dans la nuit du 27 octobre à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil, une commune voisine, après la mort de Ziad Ebouna et les déclarations donc de Nico et Dominique de Villepin.
Les fameux.
Les violences vont finir par s'apaiser dans la nuit du 29 au 30 octobre après une marche silencieuse des proches des deux ados et des habitants de la ville et un discours poignant du maire de Clichy-sous-Bois.
Après des nuits d'émeutes cet après-midi-là, le calme semble revenu à Clichy-sous-Bois. Une foule silencieuse marche vers le transformateur électrique où Ziad Ebouna, 17 ans, sont morts deux jours plus tôt, pensant échapper à la police.
Hélas, la France entière nous regarde. Nous aimerions qu'elle nous regarde quand nous démontrons à la France entière que nous savons vivre ensemble, ici, malgré nos origines et malgré nos différences.
Mais le 30 octobre, les tensions vont reprendre. Et pourquoi ? Parce que pendant des affrontements entre émeutiers et policiers, une grenade lacrymogène explose à proximité de la mosquée Bilal de Clichy-sous-Bois.
Armés de cailloux, une centaine de jeunes s'opposent violemment aux forces de l'ordre dans la cité de la Forestière, à la limite de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois. Il est 21h30, le quartier vit sa quatrième soirée d'affrontement. Encore une fois, l'impressionnant dispositif de sécurité déployé sur la zone n'a pas calmé les esprits. 11 personnes seront interpellées au cours de la nuit. Cette fois, la colère de certains habitants semble avoir été déclenchée une heure plus tôt dans une mosquée du quartier. Les fidèles présents sur les lieux accusent les forces de l'ordre d'avoir lancé du gaz lacrymogène dans le bâtiment pendant la prière du Ramadan.
On a entendu des gens crier à l'extérieur de la mosquée et il y a eu des tirs dans la mosquée de gaz lacrymogène. D'accord ? Donc les femmes ont été coincées à l'intérieur de la salle de prière dans laquelle on est en ce moment. Et vous voyez le désordre, elles ont été coincées, la porte était fermée, elles n'arrivaient pas à sortir et une heure après, on sent encore l'odeur du gaz lacrymogène.
Hier soir, les forces de l'ordre niaient cette version des faits. Pour eux, la grenade de lacrymogène tirée dans la mosquée ne provenait pas de la police. Pourtant, une heure après les faits, celle qui nous est présentée sur les lieux ne laissait aucun doute et correspondait en tout point au matériel officiel que nous montre un policier un peu plus tard. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a dû admettre l'évidence.
En état de mes informations, je confirme que c'est bien une grenade lacrymogène qui est en dotation dans les compagnies d'intervention qui étaient sur place en Seine-Saint-Denis, c'est plus là.
L'enquête en cours devra déterminer si c'est bien un policier qui est à l'origine de ce tir, mais dès hier, le responsable du lieu de culte appelait à l'apaisement.
Et même Sarkozy cherche ses mots là.
Oui, non, mais c'est ça. Même quand c'est l'évidence, c'est genre. Alors, c'est le même modèle, mais.
C'est de la com pour essayer de rattraper un peu le truc.
Mais alors, par contre, j'étais persuadé que les émeutes à proprement parler étaient parties après la mort de Ziad Ebouna. Et là, j'avais complètement oublié cette histoire.
Ça repart avec la grenade, en fait.
J'avais complètement oublié cette histoire de grenade lacrymogène dans la mosquée.
Pareil, mais je pense qu'il y a eu tellement de médiatisation justifiée autour de la mort de Ziad Ebouna. Ça nous a tellement un peu tous traumatisés que ça a un peu éclipsé justement les événements de la mosquée qui sont le deuxième élément déclencheur. Des violences. Et donc, on l'a entendu, malgré l'évidence, là encore, Nicolas Sarkozy affirme que la police n'a commis aucune erreur, accuse les jeunes du quartier. Si la mort de Ziad Ebouna a provoqué la colère et l'indignation dans les banlieues, la grenade lancée dans la mosquée en plein Ramadan va ajouter une dernière goutte au vase qui débordait déjà. Et évidemment, le mépris de Villepin et les provocations de Nicolas Sarkozy n'arrangent rien.
Mais c'est vrai aussi de parler aussi de Villepin, parce qu'il a une image qui contrecarrait justement avec Sarkozy, ouais. qui paraît plus ouais. homme d'État, etc. Et notamment
ouais, c'est l'homme, avec l'Irak. C'est l'homme qui, oui, l'homme de l'Irak.
Ouais, ouais, t'as l'impression qu'il a une stature et tout, mais il faut pas oublier que cette année-là est compliquée et l'année d'après avec le CPE très compliqué aussi.
Ouais, c'est le mec, oui, c'est le mec de l'ONU, c'est le mec du oui. discours emblématique ouais. et du coup je pense que ça.
Mais là, il est camouflé par Sarkozy qui est en première ligne en fait.
Sarkozy prend toute la lumière là, c'est son moment.
C'est ça.
Il fait paratonnerre, il fait projecteur, il fait tout.
Karcher, il fait tout.
Ah bah oui, ça c'est
homme à tout faire.
Au télé-shopping, là, c'est un truc comme ça, là. C'est...
8 ans, non. Ouais. Les émeutes déclenchent énormément de réactions politiques, dans l'opposition tout d'abord, où Manuel Valls, qui était de gauche à l'époque, et Delphine Batho.
C'est toujours bizarre,
c'est une autre époque.
C'est
une
ça. Oui, déplore justement une violence de plus en plus dure. Des voix timides s'élèvent pour parler de violences policières, comme celle d'Eliane Assassi, sénatrice communiste de Seine-Saint-Denis. À Clichy-sous-Bois, là où les tensions ont démarré, la situation s'apaise un peu. En revanche, les émeutes font tache d'huile dans les autres quartiers du département.
Rentrez chez vous!
Attention dessus!
De derrière cette voiture en feu surgissent des boules de pétanque. Lancer à pleine force ou jeter des toits, c'est ce qu'il y a de plus dangereux.
À l'action, sous-port!
Pour les pompiers, le danger vient des moteurs des voitures incendiées. Même éteint, c'est sous le capot que le feu peut reprendre. La crainte des policiers se confirme, c'est la contagion.
Nous avons eu également des échauffourées sur Sevran, Villepinte. Également, je crois qu'il y a eu un début à Rosny-sous-Bois, Bondy, Bobigny et ainsi que Neuilly-Plaisance aux Fauvettes. Donc là, c'est tout le département qui semble être touché.
Peu d'affrontements directs, mais des départs de feu un peu partout, des escarmouches. Policiers et gendarmes courent à la poursuite de petits groupes de casseurs très mobiles qui s'évanouissent dans les cités. Ne restent que quelques habitants désemparés.
Des gens ont des voitures qu'ils ont fait des crédits. Comment ils vont faire pour aller travailler demain ?
Entre policiers et certains habitants des cités, la rupture du dialogue est consommée. Et sur toutes les lèvres, on parle de Nicolas Sarkozy.
On y va. Franchement, la Châteauvillée et la Seine-Saint-Denis, c'est un truc qu'il ne faut pas faire parce qu'apparemment tous les quartiers sont solidaires et ça risque de péter très fort, quoi.
C'est un provocateur, Sarkozy. C'est un provocateur, il a provoqué toutes les cités, là. Il croit qu'il est malin, mais il n'est pas malin.
Président de la République, fin de lui.
Ce soir, plus de 400 hommes seront à nouveau déployés dans les cités pour la 7e nuit d'affilée.
Un agitateur, un provocateur.
Je pensais exactement
une
à
bête
ça.
À poil.
Une bête à poil, le fameux.
Mais justement, même dans les guignols, c'était aussi Sarkozy qui virait les étrangers dès qu'il entendait un nom étranger.
Ah oui, la période charter, là aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais oui, après, c'est vrai que les coups des bagnoles, manque de peau, c'est des prolos aussi là, qui se font cramer.
Oui, c'est ça, c'est les gens du quartier qui se font cramer leur commerce et leur voiture. Hein, pour
alors que bon, les manifs à Paris, c'est les Porsche d'ouvriers qui ont cotisé toute leur vie, comme on chacun le sait, pour se payer une Porsche. Mais bon, là, c'est vraiment des 206 de prolos, malheureusement.
C'est ça. À Rouen, Lyon, Saint-Etienne, Nantes, Rennes, Lille, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, en deux jours, 80 communes en Ile-de-France et 200 dans le reste de la France s'embrasent, à la fois par révolte face à l'actualité, par solidarité et par émulation. France 3 déclarera arrêter de reporter le nombre de voitures brûlées pour éviter de donner lieu à un concours entre délinquants.
Ah oui, parce que du coup, ça...
C'est ça.
Ouais,
il y avait une espèce de concours entre les différents quartiers qui devenait compliqué.
Ça aussi, je trouve que c'est un truc, un prisme un peu des médias en disant oui, t'as l'effet de meute, effectivement, et de reproduire un peu de partout. Ouais. Mais c'est oublier aussi les galères qu'il y a dans chaque quartier à chaque fois, en fait. C'est un peu bizarre la manière de présenter ça. Comme
on le verra
jeu,
par la suite, ouais, c'est hyper complexe. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une émulation, certes, entre les différents quartiers, de faire mieux que le quartier voisin. Mais derrière, en fait, il y a des vraies revendications.
C'est ça.
Le pic est atteint dans la nuit du 7 au 8 novembre avec 1500 voitures incendiées.
Aujourd'hui, comme hier, défilent les images de violence en France. La nuit dernière, un phare puissant zébrait les façades de Toulouse. L'hélicoptère de la gendarmerie éclaire les policiers dans les coursives des barres d'immeubles. Au même moment, leurs collègues de Bordeaux ripostent à la grenade fumigène devant des émeutiers. Et en banlieue parisienne, le regard est toujours braqué vers le haut. Quelques minutes auparavant, une lessiveuse vient d'être jetée d'un toit au passage de ces policiers. Dans cette cité de Noisy-le-Grand, la patrouille avance avec 1000 précautions, parlemente avec des habitants excédés ou agressifs et multiplie les contrôles d'identité. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, une interpellation se passe mal à Aulnay-sous-Bois. Journalistes présents sur place et habitants témoignent de l'attitude provocante des policiers. Insultes, coups, bras d'honneur.
Ils sont en train de s'en prendre aux jeunes, en train de traiter de sale arabe, sale noir et tout. Ils sont en train de les provoquer.
Ça, vous l'avez entendu ?
Ouais, on l'a entendu. On l'a vu et entendu.
Le commissariat d'Aulnay n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'explication. Incompréhension ou provocation, les habitants ont prévenu que ce soir, la nuit allait être chaude.
Heureusement, tout est différent.
Ah, une autre époque, hein. Comme quoi on s'est évolué, échangé, se remettre en question.
On a tiré des leçons du passé et ça fait chaud au cœur.
Voilà.
Plaisir. La France a peur, on l'a entendu. Les JT n'ont qu'un mot à la bouche, l'insécurité dans les banlieues, ce qui fait cinq mots en fait. la police est sur les dents, sur le pont, toutes les nuits. Dans les cités, les premiers touchés, on l'a dit tout à l'heure, c'est les habitants qui se sentent totalement abandonnés.
Comme un écho aux événements de banlieue parisienne, 34 voitures ont brûlé dans les cités HLM niçoises. Les auteurs sont très souvent mineurs. La violence est devenue leur jeu. Dans la cité des Moulins, une cité comme les autres avec les mêmes problèmes, le taux de chômage, la précarité, la violence des nuits dernières renforce un peu plus le sentiment de lassitude.
Toute la journée, les pompiers, les flics, c'est comme ça. Donc. On ne fait plus attention. C'est la violence perpétuelle et gratuite. On n'ose plus rien dire parce qu'on a peur justement pour nos véhicules.
Certains voudraient pouvoir expliquer l'engrenage sans pour autant excuser ces flambées de violence.
C'est sûr que isolés, ils sont adorables les gamins, hein, faut pas croire. Hein, c'est quand ils sont en bande, des fois ils se montent les uns les autres et puis ils entendent certains bruits, certaines paroles et automatiquement ça monte. Quoi.
Quand il y en a un, ça va.
Mais après.
Toujours un merci, toujours un bonjour.
Ouais, on n'a pas compris.
Mais par contre, en bande, les.
C'est
les
chiens hein.
Multiples, ouais.
Ça passe pas longtemps. Vite.
C'était après l'élection de Sarkozy que Hortefeux avait dit ça, genre quand il y en a un, ça va, quand il y en a plusieurs, c'est des problèmes.
Mais là, c'est les Bretons, là.
Oui, ouais.
Ou des Auvergnats ou des Bretons, je crois.
Ah, c'était les Auvergnats, pardon. Ouais.
Après, c'est vrai que du coup, comme tu le disais tout à l'heure, finalement, t'as l'impression que parfois, c'est une sorte de jeu de cramage de bagnole qui fait perdre. Ouais. Tu perds aussi en crédibilité en voulant faire.
Ouais, toujours plus.
Entendre des vraies revendications, mais du coup.
Ouais, t'as l'impression que c'est un truc viral comme ça serait sur les réseaux sociaux. Bah, c'est la mode du moment, il faut faire ça.
Du coup, les projecteurs sont foutus sur tout le bordel et plus sur le fond du problème. Du coup.
Et puis, il y avait toujours aussi ce truc-là en disant oui, mais ils étaient accusés de délinquance, donc quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y avait toujours, y a toujours ce truc-là, même après qu'on allait
jeter le doute à chaque fois.
Ouais.
Il y a quelqu'un qui va prendre la parole, plutôt inattendu et encore que. C'est Lilian Thuram, champion du monde 98.
Malcolm X. Il a des lunettes.
Un noir avec
des lunettes. C'est un intellectuel.
Deux buts en 98 avec la petite. Voilà, la petite.
Ah bah.
Mimique.
Donc Lilian Thuram, donc champion du monde 98, voilà. Mais surtout membre du Haut Conseil à l'intégration, qui déclare le 8 novembre qu'avant de parler d'insécurité, il faut peut-être parler de justice sociale.
Je suis triste, surtout pour eux, parce qu'en fait, quelque part. Ils sont dans un cercle et ça va se jouer contre eux encore. Parce qu'on va dire, mais regardez, ben, vous avez bien vu comment on va faire avec eux. Il faut rien tolérer parce que c'est simplement, regardez, je vous ai dit qu'ils étaient agressifs. Et moi, je pense que justement, la réflexion, c'est pourquoi on devient agressif et s'arrêter, réfléchir et dire, écoutez, on va réfléchir tous ensemble, on s'est trompé, mais il faut faire des efforts parce qu'en fait, c'est vrai que les gens vivent déjà dans une certaine difficulté. Ils sont déjà stigmatisés par la vue de l'autre et de dire bon, on va essayer de changer les choses.
Oui, des belles paroles.
Bah oui,
des bonnes paroles.
C'est Malcolm. C'est Malcolm. Ne cherche pas. Non, mais en vrai, sur le fond, il a raison en plus. Mais,
bah
c'est,
oui.
Que, mais c'est vrai que c'est toujours un peu lui qui
monte au front.
Qui est au front.
Ouais, puis qui est souvent appelé. Tu sais, dès qu'il y a un truc un peu.
T'avais
sociétal,
ça, il est rappeur,
genre,
je me souviens. Ouais.
Bon, bah, appelez Lilian. Bah, appelez Lilian. Ouais, quoi, Lilian match. Bon, bah,
après, non, mais après, cette parole-là, en plus, elle est utile, mais elle est noyée dans le flot des infos, du nombre de véhicules brûlés, de faits divers aussi et d'autres.
Le gouvernement décide de réactiver une loi sur l'état d'urgence adoptée pendant la guerre d'Algérie, autorisant les préfets des départements concernés à mettre en place des couvre-feux pour interdire les rassemblements à partir du 9 novembre.
Réuni avec 24 heures d'avance, le Conseil des ministres a autorisé ce matin le recours à la loi sur l'état d'urgence de 1955. Devant l'Élysée, c'est la cohue. Chacun veut savoir comment le ministre de l'Intérieur entend faire appliquer cette mesure d'exception.
C'est donc une décision de principe qui a été prise. Les modalités d'application seront décidées autant que de besoin avec les préfets en fonction de situations bien particulières. C'est-à-dire ciblées à certaines heures et sur certaines parties du territoire chaque fois que nous en aurons besoin.
La loi d'avril 55 stipule « L'état d'urgence peut être déclaré sur toute ou partie du territoire en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public. La prorogation de l'état d'urgence au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par la loi. De plus, les perquisitions seront possibles durant 12 jours en cas de suspicion de détention d'armes. Votée il y a 50 ans, cette loi avait pour objectif de permettre le retour à l'ordre dans les départements alors français d'Algérie. Cette loi sera réactivée à deux reprises, en 1961, lors du putsch des généraux à Alger contre le général de Gaulle, en 1984, lorsque les affrontements entre Caldoche et Kanak atteignent leur paroxysme en Nouvelle-Calédonie.
Et en 2020, qu'on enregistre Bebop pendant la crise sanitaire.
Macrotte et Castex.
Voilà. Ah oui. Oh, ça dénonce.
Mais ça, que, ça m'avait marqué aussi. La notion, même si on était.
Ah bah, ça marque,
quand
c'est arrivé deux fois avant.
Oui. Mais c'est vrai que là, en plus, t'es ado. T'es genre, ouais, ouais, là, ça vire choco.
Non, puis là, tu sens que ouais, le gouvernement, ils sont paumés, là. Ils savent plus trop quoi faire.
Jacques Chirac s'adresse pour la première fois aux Français via la télévision et la radio le 14 novembre. Comme pour la canicule, on voit que le bougre prend son temps.
Aujourd'hui, la priorité absolue, c'est le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public. Le dernier mot doit revenir à la loi, mais nous comprenons bien aussi que l'évolution des choses suppose le respect de chacun, la justice et l'égalité des chances.
Il y a du mal à respirer, le Jacques.
Ouais,
il a déjà un plasmatique, là, déjà.
Là, c'est à ce moment-là où il fait un AVC. C'est la fin de son deuxième mandat, il est beaucoup plus faible et tu sens que voilà.
Ouais, là, ça se sent mal.
Il était secoué là par ses histoires aussi. Ça l'a secoué, Jaco.
Plus l'âge. Il voulait un quinquennat tranquille.
Ouais, bah là.
Un discours en tout cas qui prend un peu la forme d'un mea culpa. Ok, il faut renforcer la lutte contre la délinquance, mais il faut aussi faire en sorte que personne ne soit mis à part de la société.
Là qu'on voit la différence, du coup.
Ah bah, oui, clairement.
C'est la bascule.
C'est là que ça a changé.
L'égalité des chances.
Depuis le discours de Chirac.
Il a pris son temps, tu vois. Il a pris son temps, mais.
Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais oui, il a mis ses petites lunettes, là, son petit costume.
Bien sûr. Voilà.
Dans la cour de l'Élysée, en pleine nuit. La situation s'apaise à partir du 17 novembre, soit 3 semaines d'émeutes au total. L'état d'urgence prend fin le 4 janvier 2006, près de 2 mois après son décret. Vous, quel souvenir vous en gardez justement de cette période, de ces émeutes ?
Marquant forcément. Après, j'étais à Mâcon à l'époque, donc
ça cramait pas beaucoup.
Oui, il y a eu quelques bagnoles, mais bon, déjà quelques bagnoles pour Mâcon, c'était déjà le bout du monde.
C'était deux mecs qui voulaient faire jouer.
Oui, c'est ça. Bah, c'est. Non, mais, je pense que ça s'inscrivait un peu dans ce truc de j'allais dire de défi, c'est pas les termes exacts, mais le côté genre on voit qu'à Lyon ça fout le bordel, vas-y,
donc on va le faire aussi.
Nous aussi, parce que j'ai pas l'impression que Mâcon Nord là-bas, toi tu vois aussi, j'ai pas l'impression que c'était tant le bordel que ça, mais bon, à la télé il y a la mort de Ziad Ebouna qui est très marquante quand t'es ado, je l'ai dit tout à l'heure, la violence de la mort. Et puis trois semaines d'émeutes, c'était tout le temps partout dans les médias, on était noyés que sous des images d'affrontements, de violences,
T'as l'impression que c'était sans fin, en fait, parce que 3 semaines, c'est...
En plus, mes parents tenaient un bar, en plus, à l'époque, donc j'entendais les vieux, c'était la guerre civile, évidemment. Oui. Voilà, là, on y va tout droit, c'est la guerre
civile.
Ça
va péter, ça fait un moment que je le dis.
Franchement, c'est la guerre civile. Mais ouais, via mes yeux d'adolescent, donc en âge de tout comprendre, mais encore inexpérimenté ou naïf ou tout ce que tu veux, c'est vrai que c'était vraiment un des grands moments sociétal de la décennie qui est marquant, quoi, vraiment.
Il n'y a pas eu de précédent, en fait. Tu vois, il n'y a pas eu de aussi longtemps.
Les violences dans les années 90.
Oui, mais nous, on n'a pas trop connu, si tu étais trop jeune.
C'était pas 3 semaines, surtout.
Ouais. C'était pas 3 semaines, et à ce point-là. Et moi, je me souviens aussi du. Bah, t'en as bien parlé, mais sur Sarkozy. On a parlé de 2002, et là, tu sens que c'est déjà le marchepied, en fait, pour arriver à l'élection doucement de 2007, ministre de l'Intérieur. Et tu sens que. C'est un nouveau parti pris, en fait, du politique qui se met en avant,
qui se met en spectacle.
Parce que là, il remet de l'huile sur le feu, mais fois mille.
Ah bah Sarkozy là-dessus,
il prend la responsabilité de cette prise de risque-là. Il met des gens en difficulté, notamment ses flics. C'est le premier flic de France. Et le mec s'en sert quand même là-dessus. Et je pense qu'après, t'as beaucoup de gens qui se disent, oui, c'est le bordel. On a un mec qui est là pour ça. et il va nous mettre président, on va le mettre président en 2007 et ça va se régler en fait.
Ah, mais là il était déjà en campagne de toute façon.
Oui, bien sûr. Bah, depuis 2004, depuis qu'il rentre au gouvernement, il sait que c'est son moment, tu vois, un Chirac déclinant, c'est pour
et tu vois, c'est assumé, c'est la première fois après qu'on voit un politique à ce point-là surfer sur un sur des faits comme ça, c'est
mais toi qui étais entre Villefranche et Lyon du coup, c'était
non, moi j'étais alors plus sur Villefranche sur cette période-là en 2005, mais c'était vraiment, tu voyais pas la fin arriver, on était au lycée, on comprenait pas en fait que tu voyais pas à quel moment ça pouvait s'arrêter, parce que tu dis 2, 3, 4 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et tu te dis mais ça va être jusqu'à la fin de l'année, machin. C'était plus la répétition des choses. Je me souviens aussi tu parlais de Thuram tout à l'heure, il y avait pas mal de rappeurs avec qui on avait proposé de donner la parole en disant on explique ça comment vous faites, machin. Est-ce que vous avez des solutions ? Mais en fait, c'est déjà trop tard l'histoire.
Oui,
puis c'est pas eux de trouver des solutions.
Et c'est pas du tout à des rappeurs qui sont là, pas dans forcément dans ce discours-là. Et je me souviens qu'il y avait un débat entre Joey Starr, This Is La Peste et d'autres. On mettra peut-être les vidéos sur les réseaux, qui étaient assez intéressantes. Mais on donne la parole à des gens quand c'est trop tard. Et donc c'est vrai que Thuram, tu vois, on le disait tout à l'heure, il est dans le flow en fait de toutes ces infos là et en fait on met un discours histoire de parler un petit peu de fond
parce qu'il est footballeur et que genre, et ils vont l'imiter,
il a quand même, une parole. Et puis effectivement Kevin le disait en rigolant, mais tu vas sans doute en parler après, mais Naël ou d'autres histoires comme ça qui ont suivi, c'est récurrent et qu'on n'a pas progressé d'un iota. Et que c'est toujours pareil, en fait. T'as toujours l'impression que c'est des politiques aussi qui se servent de ce truc-là. Souvent, c'est l'extrême droite. Là, tu sens que c'est Sarkozy. Et tout ça se mélange et c'est pas réglé du tout.
Moi, t'as peur.
J'étais pas peur. J'étais à Saint-Galmy à l'époque.
Encore
donc, il y avait deux France. Donc, la France... Le traitement médiatique était comme ça, genre là-bas il y a les banlieues, ça pète. Donc du coup les campagnards machin, ils avaient vraiment peur de ça parce que voilà, la télé était quand même le miroir de la société pour eux. Sinon oui, c'est avec Sarkozy. Il y a un album qui illustre parfaitement ça, c'est Dans ma bulle de Diams. C'est donc il est sorti en 2006.
Ouais.
Et c'est Sarkozy, c'est Chirac. En fait Chirac est président, mais à l'époque le président présidait, il n'intervenait pas. Sarkozy, c'est le premier président à avoir intervenu sur le terrain, machin.
Grosse machine médiatique, notamment avec TF1, etc. Où exactement. Tu sens que c'est poussé, ouais.
Et tu parlais aussi du droit de savoir en 2002. C'est cette période-là, voilà.
Ça surfe beaucoup là-dessus.
Au lycée, j'avais l'impression d'avoir vraiment une période sombre, comme ça, genre pendant un mois, on savait pas comment on pouvait faire le CPO s'il n'était pas très très loin.
Après, ouais.
Peut-être qu'on en reparlera du CPO.
Mais pour le coup, c'est une époque assez sombre de la France.
Et encore, nous, on était dans des coins safe,
tranquille,
complètement. Complètement.
Et tu sentais, genre en tant que genre habitant de la campagne, tu sentais que c'était la guerre, quoi, la guerre civile, comme tu le disais, Kevin. Les rades, c'est ça, quoi.
Tania.
Moi j'en ai un peu le même souvenir entre guillemets. Moi c'est surtout les punchlines entre guillemets de Sarkozy qui m'avaient énormément marqué. Moi à l'époque j'habitais à Saint-Bonnet-de-Mur, donc dans l'Est lyonnais, et on n'était pas très très touchés par la délinquance et par ce genre de phénomène. Par contre j'allais au lycée à Bron, où il y a des quartiers un peu plus sensible, et du coup j'ai vu des voitures cramées, etc. Et c'était un petit peu bizarre de se dire que c'est comme disait Clémy, c'est quelque chose que tu vois à la télé, et en fait tu le vois en vrai, et ça fait bizarre, tu te dis putain ça existe et c'est vrai, et ça dure 3 semaines, et effectivement tu te dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter, t'as l'impression que c'est sans fin et que le problème il est enlisé, et t'as une sensation qui est assez bizarre. C'est intéressant aussi de parler des artistes qui ont pris la parole. Il y a notamment Kenny Arcana qui a fait une chanson. Alors j'ai pas pu tout mettre dans la chronique, sinon ça aurait été fleuve, mais on pourra peut-être mettre des extraits de chansons qui ont été écrites.
C'est aussi
une
époque où effectivement le rap avait une parole qui était vraiment engagée, mais ça correspondait à l'époque aussi, maintenant beaucoup moins, donc c'est peut-être regrettable, mais bon après ça c'est chacun. Mais ouais, t'avais notamment Sniper, t'avais beaucoup de groupes qui prenaient position.
Il y a plein de morceaux qui
notamment
ont été
effectivement qui font écho à ça et qui répondent déjà très bien en fait aux situations qui sont.
Je rejoins Tania sur cette sensation de tunnel sans fin.
Ouais.
J'ai l'impression que ça va pas finir. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les chaînes infos.
Oui, en plus, t'avais pas le
mais côté. Mais au JT de 13h et de 20h, on le rabâche en boucle et il n'y a que ça.
Mais c'était pas anxiogène à crever en plus. Ouais.
Et moi aussi, ce qui m'a un peu marqué, c'est qu'on avait. En tout cas, le souvenir que j'en gardais avant de travailler sur cette chronique, c'était vraiment sur les conséquences, donc les voitures brûlées, sur les commerces saccagés, etc., les punchlines de Sarko, mais très peu les raisons qui avaient justement poussé ces émeutes. Donc on en a parlé, il y avait. Ziad et Bouna, il y avait aussi cet événement dont on se souvenait beaucoup moins avec la mosquée. Et parmi les raisons évoquées par les émeutiers, on l'a vu dans certains extraits, il y a un sentiment de révolte face à la mort de Ziad et Bouna, et les événements de la mosquée. Difficile de ne pas parler aussi des rivalités entre les cités, le besoin de faire mieux, de défier l'autorité suite aux propos de Sarkozy et son Karcher, la colère envers la police, adepte des contrôles d'identité et des brimades en toute impunité, le manque de considération du gouvernement envers les habitants des banlieues et surtout un sentiment d'injustice qui est nourri par la discrimination qui est constante à l'école, à l'embauche, au logement, au faciès.
Ça fait 30 ans qu'on a cette carte-là et franchement, on est mis de côté, on est mis de côté quoi.
Le facteur déclenchant, c'est sûr, c'est le drame qui s'est passé à Clichy. On n'a pas eu d'explication. La première chose qui a été dite, c'est que c'était des délinquants, alors que c'est même pas le cas. Donc on ne va pas faire de polémique sur les propos du ministre, mais il aurait dû faire attention dans la façon de s'exprimer, parce qu'il a blessé des gens.
Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça, finalement, ça passe au second plan complet. Même le fond, dans les propos de Sarko, quand il parle de racaille, pour... tu parlais de la France des campagnes qui vivent ça qu'à travers la télé. Pour eux, c'est acté que
c'est la quartier.
Toutes les personnes dans les cités, c'est exclusivement des racailles et que du coup... Encore une fois,
ça a alimenté aussi par les médias. Et effectivement, il n'y avait pas les BFM et CNews de l'époque. Mais le parti pris et la mise en avant, c'est aussi le spectacle, en fait.
Oui, c'est le spectacle.
Donc tu vois les flammes, tu vois les affrontements. Et c'est beaucoup plus parlant et vendeur pour eux que d'expliquer de fond, de faire des reportages longs qui peuvent être entre guillemets chiants pour certains et de dire bah non, mais c'est comme ça dans les quartiers, c'est comme ça.
C'est vrai que c'est au niveau de l'image, ça ressemble un petit peu, genre une autre époque, c'était la guerre en Irak, la première, au top du désert, les images vertes et lasers blancs. Là, c'est un peu pareil, genre tu sens un paysage noir dans la nuit avec les voitures qui crament.
On est dans le spectacle.
Voilà, dans le spectacle.
Il y a un autre élément qui a nourri le désespoir dans les banlieues. Entre mars et septembre 2005, le gouvernement met fin aux emplois jeunes qui sont mis en place par Martine Aubry en 1997 en suspendant les crédits de l'État destinés à les financer. Alors les emplois jeunes, c'était des emplois qui permettaient aux jeunes en difficulté de travailler pour une asso, pour un lieu culturel, avec à la clé un contrat de 5 ans. C'est trop cher, ça dégage. Fini le financement de la police de proximité aussi, qui était mis en place par Jospin et qui permettait de canaliser les tensions dans les quartiers.
En 1997, pour lutter contre l'insécurité, le gouvernement Jospin mise sur la police de proximité. Une présence accrue sur le terrain, une police plus proche des citoyens, une révolution culturelle pour ses promoteurs.
Nous sommes partis en 1997 à la reconquête de quartiers qui ont été abandonnés depuis des décennies et pour lesquels on avait laissé des habitants, un petit peu à l'abandon. Aujourd'hui, on a démantelé notre dispositif qui consistait à rassurer les populations, à aller à la reconquête républicaine des quartiers pour avoir une police non pas de réaction mais d'anticipation, de dissuasion présente au quotidien et faite pour éradiquer les petits réseaux.
Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais c'est pas la mission première de la police.
Par ces mots, Nicolas Sarkozy rompt brutalement avec la politique de ses prédécesseurs socialistes. Sa conception n'est pas la même, il faut des résultats et vite. L'action de la police devient alors exclusivement répressive. Harcèlement médiatisé des dealers par les tout nouveaux groupements d'intervention régionaux, loi sur les cages d'escalier. Trop de changements, disent certains syndicats, qui rappellent que, quelle que soit leur méthode, les policiers se sentent souvent très seuls en banlieue.
Ils ne peuvent pas se substituer à l'assistante sociale, ils ne peuvent pas se substituer au préfet ou à d'autres pour l'éducation nationale, ils ne peuvent pas non plus faire et trouver du travail à des chômeurs. Je veux dire par là que pourquoi il y a des échecs? Parce que le seul lieu ouvert 24 heures sur 24 dans ces cités, c'est le commissariat de police.
Pour les syndicats, l'échec de la police dans les banlieues tient aussi à des effectifs trop justes et bien trop inexpérimentés.
Moi, je me souviens de la loi de la cage d'escalier, genre à partir de c'était un rassemblement, il devait être interdit après.
Oui, c'est toute une période de mots forts et tout. C'est la même période du tolérance zéro aussi.
Ça, c'était même arrivé avant ça, je crois.
C'était même avant.
Mais Sarkozy, Sarkozy arrive en fait.
Les tolérance zéro. Foot avec les délinquants, c'est fini. Il avait dit ça.
Ouais, après, c'est le parti pris de cette
rugby,
droite.
Il a dit rugby. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Est-ce qu'on peut lui en vouloir?
Non, mais après, c'est la droite qui est présente. Oh là là, c'est sale.
Ils essaient de créer du lien, mais non.
Donc on l'a vu, les jeunes de banlieue se sentent laissés pour compte. Tous les dispositifs qui sont mis en place justement pour les aider, ils disparaissent. Les émeutes de 2005 éclatent dans des quartiers classés à 85% en zone urbaine sensible, qui se démarquent par un fort taux de chômage et des revenus faibles par rapport au reste de la commune où ils sont implantés. Les quartiers touchés comptent à minima 35% de jeunes de moins de 20 ans issus de familles nombreuses. En majorité, les émeutiers ne sont pas des délinquants, ils ne sont pas connus par les services de police, contrairement à ce qu'a d'abord affirmé Nicolas. Sarkozy, qui en était pas à sa première connerie.
Tu peux l'appeler Nicolas.
Je vais l'appeler Nicolas, écoutez.
On connaît.
Le bracelet, tu peux l'appeler comme tu veux.
Le bilan des émeutes est lourd en termes de violence et de durée. On l'a dit, c'est un événement tristement inédit en France et en Europe. Selon un article de l'Obs en date du 26 octobre 2006, entre le 27 octobre et le 17 novembre 2005, c'est 5 morts côté civil, 224 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés, 6056 émeutiers interpellés, 1328 écroués, 233 bâtiments publics détruits ou endommagés et 10346 véhicules incendiés.
Pas mal, des bonnes stats.
Un bilan, doublé coupe championnat. Là, aussi, hein,
c'est pas décisif.
Mais attends, du coup, il y a eu 5 morts.
Ouais.
Mais en comptant Ziad Bouna.
Non, pour le coup, c'est consécutivement aux émeutes. Donc, il y a par exemple un gardien d'immeuble qui est mort en essayant d'éteindre un incendie.
Ah oui, d'accord.
Il y a une personne handicapée qui est décédée dans un bus qui a été incendié, qui n'a pas eu le temps d'être sorti du bus. Okay. C'est que des choses comme ça, des gens qui sont justement pris au piège dans les flammes.
Ah ouais, des morts violentes.
J'ai pas le souvenir de ce truc-là aussi. Bah, c'est là, on retient des véhicules brûlés et basta quoi.
T'as, j'ai aucun souvenir de.
Si le bus, ça me parle.
Est-ce qu'une personne qui se fait carboniser dans un bus, normalement, ça aurait dû être plus médiatique.
Complètement, ouais.
Ah ouais, elle a complètement passé à côté, ça.
Et les 5 morts, c'est des gens soit qui sont passés à tabac parce qu'ils essayent d'arrêter les incendies, soit qui sont étouffés ou pris au piège dans les flammes.
D'accord, putain, oui.
Et dans l'affaire Ziad et Bouna, les policiers jugés pour non-assistance à personne en danger et mise en danger délibérée de la vie d'autrui seront relaxés.
Ce jour-là, les deux policiers participaient à la reconstitution en décembre 2006, dans un cimetière proche du transformateur EDF, où un an plus tôt, deux jeunes étaient morts électrocutés. Les deux adolescents s'y étaient réfugiés après une course-poursuite. 5 ans et demi plus tard, la justice referme le dossier. Les policiers ne seront pas jugés, une décision que le frère d'une des victimes ne comprend pas.
C'est inacceptable. C'est scandaleux, c'est inacceptable, même inadmissible. C'est même inhumain, je crois.
En 2007, le rapport de la police des polices faisait état d'un message radio d'un des policiers. Deux individus sont localisés, ils sont en train d'enjamber pour aller sur le site. S'ils rentrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau. La justice a considéré aujourd'hui que les policiers n'avaient pas connaissance du danger.
Vous avez l'air d'être un peu con quand même.
Bah oui, mais bon, on veut pas s'embêter avec ça, hein, cette histoire. Hein,
C'est ça, donc ça part sur un non-lieu. Côté image de la France, pas un non-lieu, pardon, ça part sur une relaxe. Côté image de la France, bon, même l'Australie a recommandé la prudence à ses ressortissants en voyage chez nous, alors que les mecs combattent des crocodiles à main nue. Donc on ne sait pas trop comment le prendre.
Ah, mais attends, contre des kangourous, ils ont des.
C'est pas cette période où il y a les cartes de France aux États-Unis.
Fox News, exactement, on est classé parmi les pays à risque.
Ils sont tous inversés. C'est inversé et t'as des étincelles dessus pour montrer.
La guerre, la guerre.
Alors ça, c'est culotté. Je crois que c'était Toulouse à la place de Paris, un truc comme ça.
Et ça, c'est le plus scandaleux, ça, monsieur. Oui.
Mais. Certains sortent quand même grandis de ces émeutes. Parmi les grands gagnants, en troisième position, le Front National, qui enregistre 12 000 demandes d'adhésion entre fin octobre et mi-décembre.
Bravo !
C'est pas mal.
Le Mouvement pour la France de Philippe de Villiers en revendique 3 000.
Faux. Ils sont péniblement 3 000 déjà. Ouais.
En deuxième position, on a l'UMP qui, pour la première fois de l'histoire de la politique française, achète des mots-clés sur Google pour les non-initiés. Tout le monde sauf Kevin et moi ici. Un lien publicitaire apparaissait en fait sur la page de résultats Google quand un internaute saisissait des mots-clés comme banlieue, émeute, racaille, incivilité. Et ça renvoyait vers une pétition pour soutenir la politique de banlieue de Nicolas Sarkozy.
Ça s'appelle la récupération.
Essayez pour Nicolas. Émeute, bien sponsorisé.
Et en première position, évidemment, Nicolas Sarkozy qui gagne 11 points dans les sondages et remonte à 63% d'opinion favorable. À un an et demi des futures élections, on va pas cracher dessus.
Bah, il a bien géré son coup, le Nico.
Très bien.
Sarkozy, ouais.
Après la crise, les politiciens s'essayent à l'analyse pour Gérard Larcher.
Anthony
apprécie énormément. Alors, ministre délégué à l'emploi et Bernard Accoyer, président de l'UMP, les violences urbaines, c'est la faute à la polygamie.
Wow.
Après la polémique, les explications. Hier, plusieurs députés de la majorité et le ministre délégué à l'emploi établissaient un lien entre violence des jeunes et polygamie. Face à l'émoi suscité, réaction embarrassée du ministre.
L'absence de structure d'un certain nombre de jeunes venait qu'ils n'avaient pas vécu des conditions, familiales, comparables aux autres.
Après, ils n'ont pas non plus accès à 17 petits déjeuners comme lui.
Non, c'est sûr, c'est sûr.
Ça dénonce. On n'a pas tous les mêmes conditions que toi, Gérard, non plus, je veux dire.
Bon, Nicolas Sarkozy avait dit strictement la même chose une semaine avant en affirmant, je cite, qu'il y avait plus de problèmes pour un enfant d'un immigré d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord que pour un fils de Suédois, de Danois ou de Hongrois, parce que la culture, la polygamie et les origines sociales font qu'il a plus de difficultés. Et c'est vrai, car enfant de deux parents algériens, je souffre encore aujourd'hui d'avoir cohabité avec les 14 femmes de mon père, mes 27 frères et sœurs, on mangeait du couscous au petit-déj. Habitant, j'ai voulu un lapin, on m'a offert un chameau. Et ça, ça aide pas à s'intégrer.
Ouais, mais voilà, on disait les choses à l'époque.
D'ailleurs, Tania a toujours son chameau, elle vient à l'enregistrement.
Elle l'a garé en bas, là. Oui. Il gêne d'ailleurs. Tu peux le décaler un peu.
Il imite Jean Dujardin à merveille.
Oui, c'est ça.
Le Conseil national des villes rappelle quand même que les fameux adultes, malgré leurs quatre femmes, le bruit et l'odeur, bah, ils ont souvent joué les pacificateurs hein, pendant les émeutes. On l'a d'ailleurs entendu dans plusieurs extraits, ils ont été les premières victimes des émeutes et c'est souvent eux qui ont fait tampon entre les autorités et les jeunes. Les émeutes seront quand même suivies de pas mal de bonnes intentions. Donc 48 milliards sont dépensés entre 2005 et 2015 pour rénover plus de 600 quartiers en France.
Des milliards.
C'est des milliards, des milliards.
Des milliards.
Il y a le budget, il y a le budget.
Dominique de Villepin annonce la réservation aux quartiers difficiles de 20 000 contrats d'accompagnement pour l'emploi et contrats d'avenir. En avril 2006 aussi, la loi Égalité des chances crée des classes préparatoires aux grandes écoles dans les zones urbaines sensibles, installe une agence pour la cohésion sociale, renforce les pouvoirs de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.
C'est bien. Bravo, la droite. Bravo, bravo. Eh, voilà, la droite. On dit. Eh, ça lâche les ronds quand même.
La droite sociale.
Bah oui, ça a détourné des fonds, mais pour les donner dans les quartiers.
Bravo,
ouais, ça c'est beau.
Bravo l'UMP.
C'est beau.
Ah, ouais.
C'est Robin des Bois. Hein.
Ah, ni plus ni moins. Ouais, cherche pas. Il a eu des problèmes avec son bracelet maintenant, mais oui. Il a fait le taf. Hein.
Ouais, c'est pas mal. Hein. Eh ben, Nicolas Sarkozy, il va mettre fin à toutes ses initiatives une fois élu en 2007 pour garder uniquement le renouvellement urbain.
Mais en continuant de prélever.
Au cas où. Le paysage est moins moche, mais la pauvreté s'aggrave après les émeutes. Les quartiers comptent trois fois plus de familles vivant sous le seuil de pauvreté que le reste du territoire. Et le chômage enregistre 10 points de plus qu'ailleurs en France, avec 45% de jeunes sans emploi. La situation est loin d'être apaisée en 2024, on en parlait tout à l'heure, en termes d'inclusion des quartiers populaires, en termes d'égalité des chances et aussi de violences policières. Fin juin 2023, les émeutes qui ont suivi la mort de Naël, tué par balle lors d'un contrôle de police à Nanterre, nous l'ont malheureusement rappelé.
Tirs de mortier, feux d'artifice et voitures incendiées. Plusieurs villes se sont embrasées cette nuit en région parisienne après la mort d'un jeune homme tué par un policier à Nanterre. À Mantes-la-Jolie, une annexe de la mairie a été prise pour cible. La colère donc, après le choc. La veille, à 8h18, trois personnes sont contrôlées dans une voiture jaune par des policiers à moto. Un témoin filme la scène. L'un des policiers pointe son arme. Quand le véhicule démarre, le fonctionnaire tire à bout portant. Quelques minutes plus tard, le conducteur, Naël, 17 ans, décède. Dans un premier temps, les policiers évoquent la légitime défense. Le jeune homme roulait sans permis et aurait refusé d'obtempérer. Pour l'avocat de la famille de la victime, la vidéo vient infirmer cette thèse.
Aujourd'hui, le policier qui a tiré est en garde à vue. Nous souhaitons donc que les choses se poursuivent d'une manière sereine, mais nous serons bien entendu vigilants, car l'homicide volontaire existe dans ce dossier, il n'y a pas de légitime défense. Mes clients souhaitent que la loi soit appliquée et que le policier soit mis en examen. Pour homicide volontaire.
Oui, mais millionnaire.
Eh oui, et ça, c'est quand même une sacrée histoire.
Bravo à lui, c'est mérité.
Ouais, une cagnotte, ouais.
Et aussi, les reportages maintenant, vu que la TNT est apparue entre-temps, il y a beaucoup plus de reportages sur les violences en banlieue comme ça, et du coup, ça
Et surtout,
pas...
le truc nouveau, c'est que tu as des vidéos amateurs sur les réseaux sociaux, et c'est parti de là, vraiment, en fait, aussi, l'histoire. Ce que j'allais dire, des fois, c'est pas une bavure de plus.
Il plaidait la légitime défense au début et on voit qu'il n'y a pas d'agression.
Ça a mis du temps, en fait. Il y a eu la vidéo, il y a des analyses, machin. Et au final, petit à petit, l'histoire s'est un peu inversée. Ah, comme quoi, hein, l'histoire se répète. Et voilà.
C'est ça.
L'histoire bégaye. L'avenir est un monde passé. Oui. J'aime citer Mano de temps en temps. Bah oui,
Sachant que...
On parlait de rap.
Ah ouais, ils étaient dans les quartiers, Mano.
Un mois avant le drame de Naël, de la mort de Naël, en mai 2023, l'ONU et le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avaient déjà pointé du doigt les violences policières et la discrimination raciale en France.
Et Amnesty aussi, je crois.
Si t'as rien à te reprocher, tu t'arrêtes tout simplement, mon pote. Ben oui.
Donc en 2024, 19 ans après les émeutes des banlieues en 2005, il semblerait que rien n'ait changé.
Merci Tania.
Merci beaucoup Tania. C'était très bien. Utile.
C'est vraiment nécessaire aussi.
Mais oui, c'est encore d'actualité.
Surtout après un petit Crazy Frog, un petit machin.
Ah ouais, un peu de sérieux quand même.
C'est bien d'aborder des sujets plus légers.
Vous ramène un peu sur terre, voilà quoi.
Des sujets un peu plus légers, quoi, je veux dire. Du Lilian Thuram, tout ça, c'est bien.
Mais oui.
Du Gérard Larcher, ça fait plaisir.
Eh ben merci à vous. On vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur Patreon. 2 euros pour avoir les épisodes en avant-première mondiale.
Oui, mondiale, évidemment.
20 euros.
Bon, on intervient dans votre salon pour répondre à vos questions.
On fait des lives dans le salon. Et...
Questions-réponses. 20 euros pour proposer un sujet. Écrivez-nous avant de lâcher la moula parce qu'il y a déjà des sujets qui sont calés. Donc, pour qu'on vous dise si c'est OK ou pas.
Alors, est-ce que ça serait pas l'heure?
C'est totalement l'heure du Patreon.
Bah oui. Un petit scratch du mois quand même.
Ça va être moi.
Allez.
Et c'est Clémy.
Avec des noms originaux.
Alors merci aux deux Thomas.
Thomas.
Aux deux Guillaume.
Guillaume.
Aux deux Nicolas.
Nicolas.
Continue. Aux trois Vincent.
Vincent.
À Vivien, Sarah, Jean-Jo, Nick Dupe, Sébastien, Seb de Wear Malherbe, Déborah, Nikonix, Tim, Michael, Miséricordé. Ulissi, ouvrons le débat sur Yahoo pour savoir si c'est un connard. Idriss, Razor Okada, Jérémy, JBVM, Tip Top, JJ, Stroutlout, Gaout n'est pas un connard. Simon, Naïd, Justine, Sophie, Yvan le Pierrot, Arthur, Romain, Julien, Bolo69, Soussou, Luc, Florian, Bastien, oui, Cassette de cul, Mathieu, Pierrot Lepoldo,
oui.
Rodolphe, Arturito, Hakim, Boule du Big Deal, merci. Laroro, Xavier Bertrand, votre Gouy, Gaout, gros connard.
C'est mon nom préféré.
Satan, Giscard, Danish, Elise Tutoui, Roman, Motherfunker, Beewil, Gaout et mon connard de cœur. Walka, Pierre et Pauline, Johan, Gaëtan, Morin, Cyril, Angeline, Florent, Jennifer, Blandine, Leïla, Bruno, Blaze, Loïs, Benoît, Émilie et ce connard de Gaout.
Bien sûr.
Merci à toutes et à tous pour votre soutien.
Beaucoup. Ouais. Et bienvenue au nouveau aussi.
Bienvenue au nouveau. Et n'oubliez pas.
Ah là,
ça faisait du bien.
Putain. Ça, c'est la France aussi, mon pote.
Ça. C'est surtout ça.
Ah, la France, le territoire.
Ça, c'est pas la France.
Déjà, Archer qui pue le Ricard et le saucisson, mon pote.
C'est ma vraie France.
Mais putain.
Vas-y, Clément.
Totalement indépendant du pad. Laissez-nous 5 étoiles aussi sur les applis de podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux X, Facebook, Insta. C'est toujours le même nom. 3615 Bebop.
P-I-B-O-P. Merci à vous.
On a aussi un SpeakPipe où vous pouvez nous laisser un petit message, une réaction, une question, lâchez-vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'année
2006.
Merci beaucoup et salut.
Salut.
Ciao.